Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Les Amis d'Orwell. Ce soir, on va parler de la contre-révolution informatique.
Ce soir, nous allons parler de la contre-révolution informatique à partir du numéro de la revue Offensive qui vient de sortir. Est-ce que quelqu'un de la revue veut bien présenter et la revue et le thème de ce soir ?
Bonjour et bonsoir. C'est Rimso qui vous parle.
Oui, parce qu'on a oublié de présenter les invités, Jean-Pierre. Alors, donc, c'était Jean-Pierre qui a fait l'introduction, mais il y a aussi Camille, Rimso et Cyril qui sont avec nous. Donc, Rimso, puisque tu avais la parole, je te la cède à nouveau.
Voilà, donc, mardi 8 novembre 2011, on va parler de la revue Offensive, qui en est à son 31e numéro, qui est né en Offensive Libertaire Sociale, un petit groupe libertaire qui est né en l'été 2003, qui très vite a choisi de se fédérer autour d'une revue de qualité, avec des dossiers thématiques trimestriels. Donc avec des réunions de travail tous les trimestres pour préparer ces dossiers, voir ce qui est mandaté des gens pour coordonner les dossiers avec tout ceci, une partie d'articles hors du dossier et des rubriques thématiques à chaque fois régulières sur le cinéma, la contre-culture, les livres, les interviews, des choses dans ce style-là, dans une volonté de faire un truc de qualité, bien écrit, bien maquetté, plaisant à lire. Et petit à petit, on le diffusait de façon militante et dans des librairies engagées. Et on a passé le cap à partir de quelques temps de diffuser aussi en kiosque, ce qui a permis de doubler, voire plus, notre lectorat. Au lieu d'en diffuser nos 1000 qu'on diffusait nous dans nos réseaux et tout ça, maintenant on en diffuse 1200 à 1500 de plus en kiosque, qui nous permettent d'avoir à peu près 2500 numéros de diffuser à chaque trimestre. Avec une spécificité offensive, outre d'être révolutionnaire dans le champ anarchiste, c'est de ne vouloir pas être dogmatique et de donner toutes les réponses selon notre ligne de grille de lecture. On a des positionnements, mais on essaie d'être ouvert et d'amener des gens aussi extérieurs à écrire dans la revue. Ce n'est pas que nous qui écrivons tout. Et on a une spécificité, outre qu'on soit féministe, contre le capitalisme, antiraciste, tout ça, c'était l'arrivée de la critique des technologies et du monde moderne tel qu'il est, de la société moderne et du capitalisme technolibéral.
Et je voulais préciser juste que Offensive Libertaire Sociale ne fait pas qu'une revue. C'est vraiment un groupe, même si on apparaît un peu souvent avec notre label Offensive Libertaire Sociale, on est impliqué dans des groupes, notamment contrôle nucléaire, féministe comme tu le disais, aussi transport gratuit, etc., etc.
Et c'est un groupe qui est parisien ou qui a une plus large audience, participation ?
C'est un groupe sur toute la France, avec quelques groupes et quelques individus répartis, un groupe à Marseille, un groupe à Paris, et plutôt des individus-groupes dans d'autres villes de France. Toulouse, dont un représentant lillois est là ce soir.
Oui, ce que tu n'as pas précisé, c'est aussi qu'il y a un certain éclectisme dans les sujets qui sont abordés au fil des dossiers. On peut peut-être en citer quelques-uns dans les numéros précédents. Celui d'avant, c'était sur les luttes de libération nationale, les savoirs pour s'émanciper avant la révolution, c'est-à-dire les révolutions avant, entre l'an 1000 et 1789, la précarité, etc.
Voilà. Le sport aussi, des choses comme ça, des trucs qui ne sont pas trop abordés, généralement dans le milieu militant, on est un peu aussi des choses comme ça.
Et c'est vrai, comme tu le précises, ce n'est pas la première fois que vous abordez la question technologique. Il y a déjà eu un numéro assez ancien sur l'emprise technologique. Et dans ce numéro-là, donc vous abordez ce que vous appelez la contre-révolution informatique. Donc aujourd'hui, c'est la palissade de dire que l'informatique et le numérique a envahi tout le monde, le monde entier. Alors, qu'est-ce qui et c'est généralement abordé de façon assez positive. Qu'est-ce qui vous pousse à qualifier ça de contre-révolution?
C'est le phénomène déjà d'emprise totale sur toutes les sphères de nos vies, avec une évolution que l'on a vue, qu'on peut le voir déjà d'un passage de une évolution qui était très sociale de l'informatique, très grosse, très lourde pour faire marcher des procédés, des machineries industrielles ou par exemple le début de l'informatisation en France. C'est les projets liés à la bombe atomique que voulait faire le général de Gaulle, où il avait besoin des calculateurs, par exemple. Et là-dessus, il était obligé de se dépatouiller parce que les gros calculateurs à l'époque qui existaient, c'était qui pouvaient améliorer les recherches sur la bombe nucléaire, c'était américain. Il n'y avait pas de structure française pour faire ça. Les Américains avaient la bombe, ils ont dit non, on ne vous donnera jamais le truc. Donc ils ont commencé à mettre des crédits en France avec toutes les unités publiques, privées, de recherche, l'Alliance Sciences Industrie, déjà à l'époque, pour avoir des choses qui se montent en place. Et donc, il y a de ça. Et donc, après, on a vu aussi l'apparition dans tout ce qui est l'automatisation un peu plus poussée, l'électronique et la gestion électronique arriver dans les boulots, dans les sphères de boulot, petit à petit. C'est des choses où chaque métier aussi, on perdait des capacités de métier pour mettre le savoir dans des machines, de l'électronique, jusqu'à en arriver à des dealers actuels ou certains boulangers industriels. Les gens pétrissent plus le pain eux-mêmes, ils ont des super ordinateurs qui prévoient le calcul du temps, de la matière première que tu arrives, tu appuies sur un icône, je voudrais le pain formé comme ça, et le mec il gère juste que la machine soit bien approvisionnée. C'est une société de manutentionnaires et de programmateurs, où il n'y a plus de savoir-faire réellement, et de poésie, quoi, ou d'inventivité de la part du travailleur. On ne lui demande plus ça, le travailleur on lui demande d'appliquer des processus, de rentrer dans le moule, et ça... C'est une partie importante, jusqu'à arriver de nos jours aussi, avec l'informatisation généralisée, c'est-à-dire que c'est la rentrée aussi dans le quotidien des gens. On ne sait pas eu comment trop faire, surtout depuis l'apparition massive d'Internet et sur cette démocratisation avec le haut débit et tout ça, l'Internet qui marche, quoi. L'Internet où on peut l'utiliser quotidiennement parce que c'est pas lent, et il y a des offres, tout ça, c'est un différent rapport au monde, jusqu'à aller... avec les hybridations, objets du quotidien liés à Internet ou d'autres choses, ou l'Internet qui est partout, si c'est dans la poche des gens, ça va jusque-là.
Ouais, là d'aller dans le détail, je pense que pour ce titre, la contre-révolution informatique, c'est d'abord prendre à contre-courant le discours dominant de révolution informatique, révolution numérique, qu'on retrouve un peu partout, et notamment beaucoup dans la presse généraliste, voire la presse bourgeoise, pour utiliser des gros mots, du style l'Expansion, l'Express, Le Monde, ou ce genre de choses. Donc déjà, on avait un premier recul à se dire, bon, bah, si ces gens-là défendent une certaine révolution informatique, on sait qu'il doit y avoir un petit problème. Donc voilà, donc, on prenait déjà ce discours-là à rebours, c'était plutôt un jeu de mots, mais aussi parce que finalement, ce qu'on entend par révolution, c'est surtout des capacités d'émancipation. Enfin, c'est un processus qui mène à une émancipation. Et on avait plutôt l'impression que l'informatique ne donne pas vraiment des moyens d'émancipation, ou alors qu'ils sont beaucoup moins efficaces que la manière dont ils sont présentés généralement, et surtout que d'une certaine manière, ça nous aliène. Donc, parmi il y a tous les exemples qu'a cité Rimso, et justement, ce qu'on a voulu un peu développer là, c'est voir comment, dans des domaines plus particuliers, que ce soit au travail, à la maison, dans les industries ou autres, comment l'informatique, finalement, on estime qu'elle contribue plus à notre aliénation qu'à notre possible émancipation.
Moi, ce que je trouve intéressant dans la revue, c'est la façon dont vous expliquez que l'informatique n'a pas toujours existé, et comment l'informatique donc a pris place dans notre société, et comment s'est développée, et aussi les différentes formes de résistance qui y sont liées, parce que dans les années 80, c'était pas évident d'imaginer pour le Pékin moyen que le monde du travail serait comme à ce point-là modifié. Alors je sais pas si vous voulez dire un petit mot sur sur l'histoire même de l'informatisation de la société.
Là-dessus, il faut voir que c'est une revue découpée donc en petits articles. Hein, là, sur les 23 pages, il y a une batterie d'articles. Et là, tu fais référence un peu à un texte qu'a écrit Célia Ezoar, une militante penseuse anti-industrielle française qu'on connaît bien sur ces ondes, qui avait écrit un texte pour un ouvrage qui s'appelle « L'élite en France », qui était spécifiquement un peu sur l'informatisation qu'elle avait utilisée, l'informatisation entre mise à feu et résignation. C'était comment en France l'informatique est apparue et comment il y avait eu des oppositions de type un peu brain machine, ludite, sabotage. Donc nous, on a repris ce texte-là pour garder un peu l'essentiel de l'historique de l'apparition de l'informatique, en gardant quelques exemples, en ne détaillant pas autant que ça, sur ce qu'on appelle le clodo, c'est le comité liquidant ou détournant les ordinateurs, un jeu de mots assez parlant, qui a commencé par à Toulouse pendant la nuit, je lis un truc, pendant la nuit du 5 avril 1980, il y a les installations de la société Philips Informatique qui sont victimes d'un violent incendie. Et c'est carrément considéré comme un sabotage d'Arsiche par la dépêche du Midi. Et donc ça, c'était, on se dit, ah oui, il y a quand même eu des choses jusqu'à cet ordre-là. C'est qu'un exemple parmi d'autres de tout ce qui a été fait par le clodo, et qui n'étaient pas considérés comme des terroristes. Les flics, à l'époque, comprenaient le message, comprenaient qu'il y avait des gens qui étaient quand même bien renseignés, qui savaient où ils tapaient, parce que des fois, il y avait ces sabotages aussi internes. Et donc, c'était vraiment des gens qui étaient informaticiens, qui voyaient ce que ça pouvait donner, l'intériorisation de la logique de l'informatique. Parce que cette intériorisation, c'est un peu que chacun encourage chacun à se voir comme intérioriser des valeurs de productivité, où on gère sa vie avec le gain, temps, bénéfice, coût. C'est ça les logiques de l'informatique. Et ça, c'est pas né de nulle part. Comme je disais, c'est né de gros projets au départ industriels, petit à petit. Ça marchait pas trop, les gens voyaient pas trop ce qu'ils pouvaient faire avec un ordinateur. Et donc, l'État français, quand il a voulu développer un peu plus les ordinateurs, quand ils ont réussi à miniaturiser, à faire des choses, c'est arrivé un peu. Les premiers trucs qu'on a pu voir et qu'on a pu connaître, c'était les gens qui jouaient au casse-briques avec les consoles de jeux vidéo et les trucs un peu ridicules au ping-pong, très moches, mais les gens passaient des heures dessus parce que c'était nouveau. Bon, il y a eu ça. Et on a eu le fameux Minitel, où l'arrivée avec le sport, les résultats du sport que tu pouvais avoir sur écran, et la pornographie de masse quand même, les 36-15 avec les affiches un peu partout. Et ce qu'on retrouve avec Internet, hein, c'est encore beaucoup le sport, les trucs à la compte consommation et la pornographie de masse. Quoi. Dans tout, animé en plus avec Internet. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il y a quand même des gens au départ qui se sont dit les syndicats, CFDT, qui ont dit « Ah, ça peut être quand même dangereux », et qu'on fait une brochure sur les risques et des choses comme ça. Mais sur les pertes d'emploi, et leurs analyses de 78-79 se sont révélées, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, peu d'emplois créés spécifiquement liés à l'informatique. Mais eux, ils ont fait un revirement dans les années 80-81. Leur chef, ça devait être mon maire à l'époque, a dit non, on a fait une erreur de jeunesse, on ne peut pas dire ça, et ils ont accompagné le truc. Donc maintenant, il y a une espèce de... C'est une résignation, quoi. Les gens acceptent la chose parce que c'est devenu tellement important. Donc petit à petit, ça a pris tellement plus d'importance dans les gens ont dû s'adapter, l'utiliser à l'école pour faire les rédactions, au boulot, parce que toutes les procédures arrivaient de plus en plus liées à Excel, voire des bases de données plus compliquées ou autres. Et on s'est retrouvé un peu à ne plus pouvoir se passer l'Internet pour faire une recherche, même dans un bottin, quoi.
C'est un débat qui est assez compliqué, parce que quand c'est intervenu dans le monde du travail, c'est vrai que la plupart des gens se sont inquiétés, parce que tout le boulot de secrétariat a été complètement bouleversé. D'abord, les gens y tapaient à la machine à l'époque. Le traitement de texte n'existait pas. Donc ça faisait des milliers d'emplois dans les entreprises. Ça a disparu. Mais d'un autre côté, tout le travail... travail à la... L'informatisation, c'est autre chose que le travail, par exemple, à la poste, trier des lettres manuellement. C'est un travail qui est un peu stupide, si je peux dire. Donc c'est là-dessus qu'il y a un débat à avoir sur la place de l'informatique, comment elle a bouleversé le monde du travail, quoi. À la fois en mal, puisque ça a mis plein de gens sur la touche, mais bien que ça nous permet de revoir notre rapport au travail, du coup, aussi, hein, en perspective. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle forme d'aliénation par rapport au boulot, c'est ça le...
Mais là-dessus, je pense, l'histoire du revirement de la CFDT, c'est assez révélateur, significatif. En fait, quand il y avait... Là, ce qui est intéressant sur l'histoire des résistances à l'informatique en France, en tout cas, c'est qu'au début, ça s'est fait, je pense, d'autant plus facilement par rapport à aujourd'hui, que la plupart des machines étaient des grosses machines, donc avaient une connotation industrielle, centralisatrice, autoritaire assez forte, qu'on n'a plus nécessairement aujourd'hui avec les téléphones portables ou ce genre de choses qui sont des trucs discrets. Et surtout, il n'y avait pas d'ordinateur dans les foyers. Donc l'ordinateur, on n'avait vraiment que cette image de l'ordinateur au travail, au secrétariat ou des machines automatiques... sur les bases de chaîne. Donc c'est ça qui a fait que la critique était plus aisée, plus partagée, puis bref. Et si la CFDT a pas fait, enfin c'est pas qu'une brochure qu'elle a fait la CFDT sur la critique de l'informatique et l'industrialisation, c'est carrément tout un rapport qui a été publié ensuite sous forme de livre qui s'appelle Les dégâts du progrès. Et la critique qui est formulée, qu'on reprend un peu à notre compte, c'était de dire, bah finalement, effectivement, il y a du travail plus ou moins pénible qui disparaît, mais finalement, on perd en autonomie. On n'a plus une autonomie de notre organisation dans le poids du temps. Donc là, c'est essentiellement le problème de l'automatisation dans les chaînes de montage, les ateliers ou ce genre de choses. Et finalement, on se retrouve à faire un travail plus inintéressant, qui demande moins de capacité, enfin moins d'efforts intellectuels, et on le fait de manière plus répétitive. Et c'était quelque chose qui était, je pense, tout à fait valide, largement défendu par la CFDT, tout ça. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, parce qu'on a déjà des travaux qui sont potentiellement aliénants et répétitifs, et que ça, on se fasse remplacer par une machine. Bon, je ne sais pas, moi, je ne suis pas trieur à la poste, mais c'est sûr que la critique, elle est moins facile à porter, quoi.
Après, par rapport à la question qui revient souvent, c'est dire on a un travail fastidieux, les machines sont là pour nous libérer. On voit, il y a toujours cet argument qui revient dans le sens où c'est où le capitalisme en fait nous aiderait en fait en développant ces outils-là et on serait après libéré du travail et on voit tous les jours comment c'est pas le cas, comment le travail peut être aussi très aliénant. Quand on est subordonné à une machine, on est beaucoup plus contrôlé, par exemple, dans le travail qu'avant. Toutes les personnes qui travaillent depuis longtemps peuvent le dire, que les contrôles sont beaucoup plus présents actuellement. Il y a aussi un rapport qui peut être très répétitif face à une machine. Enfin, il n'y a pas que des programmeurs qui s'éclatent. Il y a aussi,
y a aussi des gens qui font tout le temps les mêmes lignes de code ou qui programment tout le temps les mêmes automates et qui sont vraiment sur la temporalité de la machine. Après, on prend l'exemple souvent des caissières. On dit, bah oui, les caissières vont peut-être disparaître à cause des RFID ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est bien pour elles. Elles vont pouvoir. En fait, on dit pas que c'est bien, évidemment, de mettre des codes barres toute la journée. C'est pas, mais faut, enfin, c'est quand même toute une population qui vit de ce travail-là, que l'industrie va décider. Là, enfin, ils annoncent déjà 2012-2013. C'est bon, les caissières, il y en aura plus. Tout ça, c'est en fait des gens qui sont esclaves d'une évolution technologique qui n'ont pas suivi. En fait, le travail aliénant va être soit remplacé par du chômage, des gens qui se retrouvent à la rue dans une précarité encore plus infime, pour être remplacé par quoi, en fait, dans le supermarché, bientôt il n'y aura plus que des vigiles ou des gens derrière des caméras ou derrière des ordinateurs dans un travail, on ne sait pas, enfin, je pense, encore plus aliénant vu vers quoi nous emmène le capitalisme.
Donc une des questions, c'est quelle limite à cette informatisation
Oui, je sais pas quoi. Quelle limite? Qu'est-ce que tu peux-tu préciser ta question, Jean-Pierre?
Nous, on est dans un processus qui a bouleversé le monde du travail avec des nouvelles formes d'aliénation qui ont cassé effectivement les solidarités collectives dans les entreprises et qui ont même individualisé, qui peut être un facteur d'individualisation chez soi. Mais on se demande jusqu'où supprimer un certain nombre de boulots idiots, ingrats, et finalement arriver à ce qu'il n'y ait plus aucun être humain dans les lieux comme un magasin ou tout ça. À partir de quel basculement, quelle limite, ou est-ce qu'il y avait déjà le ver dans le fruit dès le départ?
Ouais. Je dirais que la question ne se pose pas en ces termes, parce que le problème, c'est qu'on a informatisé pas du tout en ayant en tête on va se débarrasser des tâches pénibles. On a informatisé et automatisé en se disant on va faire des économies sur la masse salariale, grosso modo. Ou alors en donnant une productivité plus intense. Donc ça n'a pas été du tout pensé comme ça. Donc au-delà des problèmes qu'on peut avoir en se disant que dans une société libertaire ou idéale ou ce que vous voulez, ce serait compliqué de mettre de l'informatique et tout ça, mais en supposant qu'il y ait une possibilité de mettre de l'informatique, on raisonnerait de manière complètement différente. Et du coup, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une limite à atteindre ou à ne pas dépasser. Je pense que ça me paraît délicat.
Après, ouais, parce que dans cette forme-là, la question se poserait déjà avant de parler d'informatisation dans le cadre du supermarché, savoir est-ce qu'il y aurait ou non des supermarchés, un autre rapport aussi au commerce.
Non, mais après, les limites que nous on peut se fixer, c'est de dire aussi que là où il y a des espaces où il y a encore un peu d'humains et d'échanges, il faut arriver à les préserver un minimum malgré toute l'annihilation qu'il y a et tous les problèmes que peuvent poser les services publics tels qu'ils sont, où il y a de l'humain, et des choses comme ça. Mais c'est que là, on revient aussi sur qu'on est tellement embrigadé dans un truc qu'on a déjà un peu perdu. Quand la plupart des gens font des virements automatiques, payent leurs factures, machin, leurs factures de telle façon à ça laisse la porte ouverte à enfoncer, ou payer leur carte bleue ou autre, à enfoncer cette logique du... tout est géré de façon informatique, via des comptes bancaires, des trucs, et qu'il n'y a plus besoin de faire de transactions humaines, c'est compliqué de revenir en arrière, de dire « Ah non, on aimerait bien pouvoir avoir un interlocuteur quand ça merde avec telle entreprise privée ou avec tel service public. » Bah, il va dire « Non, on va faire la hotline téléphonique, va faire les gestions sur informatique. » Oui, parce qu'on a accepté de tout passer là-dessus. Donc il y a déjà une résistance aussi de se dire, des fois, on refuse certaines choses pour pouvoir peut-être garder quelques marges de manœuvre. Parce que c'est ça aussi, c'est comme on disait dans une autre émission qu'on avait fait, c'est par la quotidienneté, la facilité qui nous enferme dans un monde de plus en plus machinique, de dire ouais, ça va être plus simple pour vous. Vous aurez plus de temps pour payer vos impôts, et machin, vous peut-être 5% de moins, ou je ne suis même pas sûr que ce soit 5%, mais ils vont te faire des myriades d'offres pour que tout soit rationalisé, que les gens n'aient plus aucune marge de manœuvre. On va te prendre, et tu ne pourras plus réagir du jour au lendemain, quoi.
Et là, tu es en train de décrire le cybernanthrope, si je comprends bien. C'est-à-dire le rapport entre l'individu et les objets qui l'entourent.
Oui. Il y a un peu de ça. C'est un article du dossier dans lequel on aborde le mouvement cybernétique. Le mouvement cybernétique, c'est grosso modo toute une période d'artistes, de politiciens et de scientifiques, beaucoup des informaticiens. Donc je crois que ça commence dès les années, même à la fin des années 50 en fait. Et en gros, c'était de... le but, c'était de rendre quelque part l'être humain plus efficace. En le transformant simplement en une machine communicante. C'est-à-dire un être ou une machine, si on veut, qui reçoit des informations et qui donne des informations. Et à partir de ça, on essaie d'avoir d'agir en conséquence. Et le but, enfin, la chose est de dire que, bah, grosso modo, c'est juste en traitant des informations, on va pouvoir tout bien faire. Et le but ultime, quelque part, c'était le cyborg, qui est une sorte d'être humain amélioré, augmenté par des implants machiniques quelconques qui permettent de traiter de l'information automatiquement. Et donc ça, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Bon, en tout cas, c'est pas à présent aujourd'hui, il n'y a pas de cyborg. Mais le propos de l'article, c'était de signaler qu'il n'y a pas besoin de ça pour avoir des différences de comportement des personnes dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que même si on n'a pas des implants ou ce genre de choses, on a déjà des prothèses dont on sait très difficilement se passer. Donc ça va être le téléphone portable pour la majorité de la population. C'est le réflexe de, quand on a besoin de chercher une information, on va la taper dans un moteur de recherche plutôt que de faire appel à ses connaissances, à ses amis ou à des recherches encyclopédiques dans des bibliothèques ou ce genre de choses. Et voilà. Et bref, c'est de dire que cette transformation a déjà eu lieu en partie, qu'il y a déjà pas mal de gens ou de communautés ou de pays entiers plus ou moins qui ont amorcé cette transformation et qui nous paraît pas vraiment souhaitable dans le sens où justement, bah, qu'est-ce qu'on devient si on n'est plus que... Si finalement on n'a plus aucune connaissance, plus aucune mémoire, qu'on fait tout le temps appel à des prothèses pour la moindre des choses en fait. Donc finalement on perd un peu une grosse partie de l'intérêt de la vie en fait, de son identité exactement. Voilà. Et donc c'est pour ça que, comme disait Rimso, s'il y a encore des marges de manœuvre à défendre où on est moins besoin d'outils numériques et ce genre de choses, et bah, c'est déjà une première limite à pas franchir, c'est éviter que ces endroits, ces lieux ou ces tâches libres d'une tyrannie numérique en quelque sorte, soient numérisées à leur tour.
Alors avant de voir comment peut-être le cybernanthrope et les divers... objets communicants interagissent entre eux. On va peut-être faire une pause musicale de quelques instants.
J'ai été confus.
J'ai faim de sens, de fond. J'ai besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes. Rester condamné à n'évoluer, à courir des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé. Affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis. Vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose. Sans renier mes origines et bien avant que je me décompose. Vite, besoin d'évasion, de source d'inspiration. De toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim.
Hey yo, slobbing, gasping, chasing. and flavor, foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is merely a concept to find my path as I find my step. See the kids that seem so famished, they want direction cause they needs is vanished. I'm munching on the cools like a praying mantis. My need for the new shit stay established. Mouth is dry and the word is like pastis. Dark cave, I'm looking for the keys. Not every MC holding knees, but I can break out every time I please. Tomato pasta, chives and cream, more culture than you ever dreamed. I get my style from feeding my craving, and that's the good shit that you now tasting. Oui, j'ai faim. Une faim crève la dalle. Un appétit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui salive. À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis. J'ai les crocs, paroles de Morico. Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue. Et c'est tant mieux, ça dérange, ça devient explicite. Tout d'un coup, les oreilles sifflent car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé. Incroyable, hein, viens, tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme, conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim,
Ok, on revient dans Les Amis d'Orwell, on parle de la contre-révolution informatique dans le numéro 31 de la revue Offensive, qui est en vente jusqu'au début du mois de décembre, pendant encore un mois. Et on était en train de parler du cybernanthrope, cet être doté de prothèses, pas forcément directement reliées à la peau, et qui communique avec tout son environnement. Alors... C'est le sujet de l'article que tu as écrit, Camille. Comment est-ce que ça communique tout ça?
Alors, à la base, il y a ce concept sorti un peu de la tête des académiciens, de certains industriels et de publicitaires, en fait, hein, qui s'appelle l'Internet des objets. Donc, ça consiste à dire tout ce qui est physique, tout ce qui est présent dans le monde physique, donc tout objet, mais aussi... pourquoi pas tout être humain, tout animal ou que sais-je encore, on va en créer une version numérique qui sera connectée à Internet. Et donc pour ça, il est nécessaire, quelque part, d'étiqueter chacun des objets ou chacune des personnes ou chaque animal. Et alors, pour l'instant, on a des versions très, très soft de la chose qui sont... Des simples codes-barres, mais à la place d'être des codes-barres avec juste des barres, c'est des petits carrés, ce qui fait que c'est des codes-barres qu'on peut lire en deux dimensions. Mais le projet, c'est de donner des étiquettes RFID. Donc les étiquettes RFID, c'est des toutes petites puces électroniques qui ont comme particularité d'avoir une mémoire dans laquelle on peut stocker un peu d'informations, et une antenne qui fait que cette information peut être communiquée. Typiquement à des lecteurs, c'est-à-dire des outils qui émettent un champ électromagnétique pour lire l'information. Et on peut lire l'information, on peut la modifier. Et alors, avec tous les travaux de miniaturisation, notamment les travaux sur les nanotechnologies, on envisage de créer des toutes petites étiquettes électroniques et surtout qui soient vraiment pas chères pour en produire à l'appel, et d'étiqueter tout ce qu'on peut. Et donc, à partir de là, il devient possible, par exemple, dans une ville touristique, d'avoir chaque partie d'un monument historique qui a une puce électronique. Ou alors, pour gérer ce qui se fait déjà, pour gérer les parcs et jardins, par exemple, on va mettre des puces sur tous les arbres. Et après, on peut connecter n'importe quoi, grosso modo, qui puisse... transmettre de l'information numérique. Donc par exemple dans les jardins de la ville de Paris, on va mettre des détecteurs de pollution atmosphérique, des détecteurs de pression et ce genre de choses. Et donc toutes ces informations vont pouvoir communiquer entre elles Donc les modèles sont encore en développement, mais c'est un peu le but. Et notamment, ça permet à n'importe quelle personne qui dispose, par exemple, d'un téléphone portable qui est en mesure de lire des étiquettes RFID, ça existe déjà et ça va se développer encore plus à l'avenir, et bah d'avoir accès à toute cette information. Donc de se balader dans la rue et d'être capable d'avoir tout d'un coup sur son téléphone portable toute l'information sur tous les monuments qu'il y a autour. Mais aussi de connaître s'il y a des détecteurs à côté, je sais pas, la température, le temps qu'il fait, et tout un tas de choses comme ça, quoi. Et du coup, quelque part, cet Internet des objets, c'est de dire le monde physique est entièrement reproduit quelque part sur un support numérique, informatique, électronique, et à peu près n'importe qui peut y avoir accès. Et du coup, il y a une sorte de contrôle total qui peut commencer à se mettre en place.
À s'organiser, oui, ça avance surtout avec des motivations à la fois ludiques, artistiques ou pratiques, hein, parce que ce que tu dis, c'est déjà en cours actuellement. Rien qu'en visitant le site internet de la ville de Paris, on peut déjà découvrir toutes sortes de projets qui sont soit en préparation, soit qui existent déjà. Il y a effectivement des promenades virtuelles dans Paris où on peut découvrir en passant des monuments, devant des monuments, des différents descriptifs sur son téléphone portable, répondre à des questions, gagner des points, etc. Jusqu'à ce qui est assez amusant, à la fin on gagne un livre, j'ai vu ça. Mais ce qui est également en projet, je crois qu'il y a aussi des sortes d'expositions artistiques virtuelles. On se balade dans la rue et on voit à travers l'objectif photographique de son téléphone portable une œuvre qui n'est pas physiquement présente dans la rue, mais qui apparaît sur l'écran. De la même façon, il y a aussi des aspects ludiques. Donc on voit qu'il y a quand même toute... Enfin, les artistes sont pas mal à la manœuvre aussi pour faire proliférer tous ces gadgets. Et ce qu'on voit pas, donc, c'est que ça maille toute la ville et que derrière ça crée un filet, effectivement, dont on ne sait pas forcément quelle utilisation il peut être fait à l'avenir. Enfin, même au présent, d'ailleurs.
Le but, c'est que ça devient beaucoup plus facile de tout gérer si tout est... Si tout est connecté sur Internet, si toute l'information dont on a besoin, on peut y accéder depuis n'importe quel écran. Et surtout, une fois que tout est numérisé, comme tout est plus ou moins un ensemble de données qui communiquent et qui parviennent, rien n'empêche, alors certes ce sera compliqué, mais d'écrire des programmes informatiques qui récupèrent toutes ces données, qui les analysent, et qui disent, là, il y a une situation particulière, on va faire ça. Donc, que ce soit pour réagir à un changement dans la météo, ou des choses qui sont déjà plus ou moins expérimentées. Par exemple, lors de manifestations, en faisant passer un énorme champ électromagnétique ou des simples détecteurs d'ondes, il est possible de savoir, grosso modo, le nombre de manifestants et les comportements globaux grâce à simplement les téléphones portables qui sont là. Et donc ça, rien, on peut très bien imaginer à l'avenir qu'on ait des dispositifs automatiques qui détectent le moindre rassemblement de personnes. Alors, si ces personnes ont des téléphones portables, mais bientôt, comme il y aura des puces RFID dans à peu près, par exemple, tous les vêtements qu'on va porter, et ce genre de choses, même si on n'a pas de téléphone portable, ça devient facile.
Dans les passeports aussi.
Voilà, sur les cartes d'identité.
Les cartes d'identité, c'est-à-dire que c'est presque à la limite, dans un futur proche, connaître, sans besoin de contrôle physique d'un individu, connaître son identité ou son absence d'identité à distance.
Voilà. Et de réagir de manière quasi automatique, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un programme qui va automatiquement dispatcher les forces de police en fonction des mouvements qui ont été détectés, du nombre de personnes qui ont été repérées à un endroit ou à un autre. Ce genre de choses.
Ce qui sera dur, c'est qu'il deviendra louche, comme les certains qui étaient clandestins, de pas avoir, qui avaient pas de carte bleue ou trucs comme ça, qui payaient plutôt en liquide pour pas laisser trace. Ils étaient déjà louches. Quand tu étais basque et que tu faisais ça, tu disais, on va peut-être te contrôler, toi. Ben là, quand tu seras personne un peu différente et que tu n'auras pas la carte, le téléphone, on va dire, il a pas de téléphone, il a peut-être quelque chose à cacher, parce que sinon, il aurait pris le téléphone ou la carte, un truc. Et là, tu auras des chances de te faire contrôler. Donc, c'est là, c'est que pour l'instant, tout n'a pas basculé, mais on peut très bien se retrouver louche autour de la table parce qu'on n'aura pas ce que... l'évolution technologique qu'il faut.
Là,
quoi.
C'est un peu le champ des résistances qu'on peut avoir, justement, en refusant, en essayant de voir chacun, et, ou individuellement et collectivement, toutes ces facteurs de facilité, comme tu disais, qu'on peut refuser, que c'est pas si facile que ça. Enfin, je veux dire, c'est. Il y a un certain nombre de cartes qu'on peut éviter, il y a des choix qu'on peut faire, c'est pas encore bouclé. Et je voyais là qu'à Lille, il y avait un petit projet moins grandiose que le cybernanthrope, mais qui est le projet à la mairie de Lille. C'est la mairie ou je sais
la communauté urbaine de Lille.
De faire une carte unique pour à la fois les transports, les bibliothèques, tous les services collectifs quand même. Je crois qu'il y a un collectif qui s'appelle Stop RFID.
Mais justement, là, je pense que c'est assez révélateur justement de la limite du refus individuel. Je veux dire, aujourd'hui, on peut c'est pas encore trop difficile, je pense, de se passer d'un téléphone portable, d'un passeport Navigo. Quoique, si on veut s'abonner au métro parisien, je pense qu'on est un peu obligé de passer par Navigo. Non,
t'as le passe découverte. Là.
Oui, mais c'est okay. Navigo quand même.
C'est un. En fait, c'est.
Ouais, par rapport à. C'est pas ça, moi j'achète en liquide. Mais...
ouais, enfin. En fait, le bémol que je fais avec ce type de Navigo, c'est vrai que c'est mieux de ne pas avoir l'identité directement. Mais après, ce qui intéresse, par exemple, les sociétés qui travaillent avec la RFID, avec la RATP, c'est d'avoir un numéro d'identifiant et un comportement type d'utilisateur. Donc finalement, que ce soit un numéro ou Jean-Pierre ou Paul ou un nom particulier, ça importe peu, puisque finalement, ils ont un consommateur type et ils étudient ce comportement, ses passages, et c'est ce qu'ils cherchent à avoir. Donc c'est pour ça que je mettais un bémol, mais bon, évidemment, c'est mieux d'avoir le côté, et c'est un scandaleux que ça soit pas anonyme pour tout le monde et qu'on doive payer plus pour avoir l'anonyme.
On va peut-être préciser qu'on parlait du pass Navigo découverte, voilà. Donc qui permet de, pour la modique somme de 5 euros, de ne pas donner son nom lors de l'abonnement au Navigo.
C'est 5 euros de base, après, c'est pas tous les mois que tu payes 5 euros.
C'est 5 euros de base.
Et surtout, tu signes pas de contrat avec la RATP. C'est ça, parce que c'est ça le pass Navigo.
D'accord. Oui, comme disait Cyril, c'est surtout utilisé dans des. De la prospection et de l'analyse sur le trafic. Alors à Lille, dans la métropole lilloise, justement quelque part, le délire c'est que la métropole avait anticipé, voulait déjà aller plus loin en faisant pas seulement une carte de transport mais une carte de vie quotidienne, comme ils ont appelé ça, et ça regrouperait en plus la possibilité d'aller au resto U, d'aller à la bibliothèque, d'emprunter des livres, d'accéder à certains services administratifs de la ville. Pour les salariés de la ville, ça servirait de passe pour entrer dans les bâtiments et ce genre de choses. Donc ce serait quelque chose qui regrouperait tout un tas d'informations. Donc même si, comme le Navigo en lui-même par exemple, c'est de l'information qui peut déjà être gênante, parce qu'a priori on peut déjà commencer à connaître les habitudes de quelqu'un juste en suivant ses transports, mais là, grosso modo, on a... son profil type de consommateur, ce qui intéressera les publicitaires, mais aussi de simples personnes, ce qui pourra intéresser n'importe quelle force de police. Et le problème là, par exemple, donc, vu que du coup ce projet a été un peu révélé, ils avancent masqués, donc pour l'instant on a juste l'abonnement Vélil d'un côté, l'abonnement au transport public, alors il y a déjà des RFID dans le carte d'abonnement pour les TER, mais pas pour les métros, mais ça viendra. Et du coup, ils avancent encore sur un autre front, qui est à l'université, où là, la carte d'étudiant, qui est obligatoire, a une RFID et sert déjà à payer le restaurant universitaire et à emprunter des livres. Et là, on ne peut pas manger au restaurant universitaire si on n'a pas cette carte. Donc, le refus devient compliqué.
Mais par rapport à ça, c'est aussi un truc... On n'imagine pas aussi les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, dans des pays qui sont beaucoup plus coercitifs que les nôtres, qui permettent moins de la liberté. Par exemple, à Moscou, au nord de Moscou, il y a eu une manifestation des antifascistes et Dieu sait que là-bas, ils font très attention. Ils n'avaient pas pensé que des mois après, on allait regarder le fichier de l'équivalent de Navigo là-bas pour aller regarder les noms et nominativement voir qui était là et aller faire des perquisitions en fonction de ces données-là. Ce n'est pas forcément évident de voir les causes à effet qu'ils peuvent avoir et jusqu'où, parce que voilà, c'est de manière anodine, on va prendre son transport de manière anodine, c'est un peu comme pareil pour Facebook, de manière anodine, on va retrouver ses collègues, etc. Et après, ça a des conséquences sur le contrôle qui sont assez disproportionnées, surtout si on n'a pas cette prise de conscience-là.
Il ne manque que la reconnaissance faciale. C'est justement le dernier projet de M. Bauer et d'un de ses amis criminologues qui viennent de faire un livre blanc qu'ils ont remis au gouvernement, à M. Guéant, où le grand projet maintenant, après le fichier ADN et le fichier de reconnaissance faciale, où la CNIL a émis un avis défavorable. Mais
c'est un avis.
Il est affiché.
Oui, donc là, on était sur les résistances avec le collectif Stop RFID. Il y a d'autres types de résistances qui sont citées dans ce numéro-là. Le collectif Faut pas pucer dans le Tarn qui se bat contre l'obligation de mettre des puces également sur toutes les moutons, les brebis, pour toujours dans un objectif de traçabilité sanitaire. Il y a également, vous parlez également du collectif Livre de papier. Sur le refus du numérique dans le monde du livre, oui, des bibliothèques, des librairies.
C'est deux petits collectifs qui, à travers un objet de terrain, on vit dans une ville, borne automatique dans les bibliothèques, volonté de numérisation des écrits, du savoir. On a monté un truc qui critique aussi l'informatique en général, et que par exemple pour le livre de papier, ce que c'est que la lecture au temps du numérique. Et il ne faut pas pucer, c'est pareil. C'est des gens plutôt néo-ruraux qui sont coquinés avec des gens sur place, dans un rapport de territorialisation forte et de critique de la société industrielle, ont vu cette obligation qui était faite à un métier où ils avaient quand même de la liberté, le petit éleveur, où tu peux produire ta propre nourriture pour tes bêtes et essayer de les vendre avec le moins de contraintes possibles, avec les circuits les plus courts possibles, avec des normes que tu peux contractualiser avec ta clientèle. On te dit, ben non, il faut passer par un système global de contrôle, d'étiquetage, de traçabilité. Donc avec ça peut... Ils ont une critique aussi du bio, de la bio, je sais pas comment on appelle ça. L'agriculture labellisée biologique, AB, avec les labels comme ça, les labels européens. C'était les premiers à dire, on peut contrôler, on pourrait contrôler que dans une ville de je sais pas combien de milliers d'habitants, il y ait les gens en enchaînement. Et ça arrive à un truc très pyramidal et très compliqué, c'est que eux, les gens, faut pas pucer, préfèrent les rapports directs à plus petite taille et critiquent aussi l'informatisation en général parce qu'ils pourraient très bien combattre aussi la biométrie ou d'autres choses comme ça. Donc c'est un peu général. Après, peut-être... voilà, et je sais pas si vous avez d'autres questions, peut-être sur le militantisme.
Bah, oui, parce que le militantisme, finalement... Est-ce qu'il s'en sert pas de l'informatique ? Est-ce que ça... Par contre, du coup, il y a tout le côté totalitaire qu'on vient de décrire, mais est-ce que nous aussi, on ne se sert pas de l'ordinateur pour développer les luttes, les favoriser, avoir des rapports plus directs entre nous ?
Oui, alors il y a un article dans le dossier sur ce sujet précis. C'était en fait... on voulait parler un peu des désillusions, il y a plusieurs articles en fait sur ce thème-là en particulier, notamment par rapport aux révolutions Facebook ces derniers temps, une critique mais je voulais parler principalement d'un article qui lui parle de l'utilisation de l'informatique dans le militantisme et notamment de nos milieux et je voulais revenir sur cette époque qui était en fait pré-internet où on ne savait pas encore c'était vraiment le début, je parlais des connexions bas débit, où il y avait tout d'un coup une fascination de l'outil par les milieux principalement libertaire ou alors avant-gardiste, extrême gauche. Et il y avait en fait cette idée que on allait enfin pouvoir accéder à un nouveau public, tout le monde pouvait lire nos textes, donc dans l'esprit sous-jacent, c'est comme tout le monde pouvait, tout le monde allait le faire. Donc ça je parle des années 90. La désillusion finalement elle est venue assez vite, mais il y a quand même ça continue toujours, enfin c'est quand même des collectifs qui ont perduré, même si après ils sont revenus sur certaines idées. C'était dans l'idée de beaucoup dans l'idée de faites votre média. Il y a Indie Media qui est issu de ces époques là et c'est en gros, voilà, on a un outil. On va pouvoir court-circuiter les informations classiques, les journaux. On va pouvoir faire notre média et enfin on va faire la révolution puisque tout le monde va connaître la vérité. Donc c'est beaucoup sur cette idéologie aussi qui est liée à l'informatique, etc. C'est l'idéologie de la transparence et de la communication, dans le sens où si on le dit, si on exprime quelque chose. Ça va influer sur l'agir, les gens, les choses vont se mettre en mouvement par le fait même de l'information. Donc ça, on pourrait discuter, mais aussi ça, c'était une grosse désillusion par rapport aux moyens qu'on avait par rapport à cet outil, puisqu'en fait, on a beaucoup parlé dans la première partie de dépossession des savoir-faire, des savoir-vivre. Et il y a un truc qui était vraiment nié dans cette époque-là, c'était est-ce que c'est vraiment notre outil ou est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise partiellement. Et en fait, on a vu au fur et à mesure, il y a des choses qui ont été écrites dans les années 90 ou au début 2000 qui étaient très intéressantes. Je me suis basé pas mal sur les choses qui ont été écrites par les gens qui sont autour de réseau.net. qui est un portail militant, un portail d'articles d'ailleurs qui est très bien fait, qui en fait faisait un manifeste du web indépendant et donnait quelques pistes, donc de ne pas rentrer parce qu'il y avait en gros à l'époque il y avait Windows contre Linux. Maintenant c'est un peu plus compliqué, bon c'est un peu compliqué d'en parler en 10 secondes. Il y avait Windows contre Linux et il y avait l'internet supermarché contre l'internet militant. Et on a vu au fur et à mesure du temps finalement que les deux choses se mélangeaient. Et c'est une grande désillusion quand par exemple l'internet, les réseaux sociaux, comme on dit, pour pas dire Facebook, mais quand arrive ça, puisque c'est finalement tout ce que ne voulait pas le manifeste du web militant, c'est-à-dire de l'immédiateté. De la surenchère de moi je vais écrire plus vite, du refus de la réflexion sur l'information et de par contre un truc complètement dépossédé. Ça veut dire que là on peut plus avoir ni serveur ni quoi que ce soit, on est subordonné à de la pub, c'est même un support de pub, d'études de pub, etc. Enfin, en fait il y a quelques textes récents qui disent on a complètement perdu, c'est internet n'est plus un lieu de réflexion, c'est devenu un lieu de divertissement, même pas créatif. Et ça. Et après, par rapport à la propagande, on s'aperçoit finalement que on s'adresse qu'à un milieu fermé et que finalement, on n'a jamais réussi à s'ouvrir à d'autres milieux. Enfin, peut-être à une certaine époque dans les années 90 justement, mais actuellement. Le principe d'Internet, c'est qu'on va chercher ce qu'on veut. Et en général, quand on n'est pas militant, on ne va pas chercher des choses militantes. Et inversement, quand on est militant, on reste entre nous. Et en fait, ce que je disais à la fin, c'est que finalement, maintenant, pour toucher un autre public, bah, il faut distribuer un tract. Et Internet, c'est tellement sur. On est tellement dans la surinformation que ça n'a plus d'impact réel.
Ça aide quand même beaucoup les gens qui sont qui sont militants ou qui sont dans des associations ou des collectifs en interne.
Oui, bah en fait, il faut pas nier que c'est un outil de communication allez, on va dire plein de qualités et de défauts. Mais là, un peu pour justement pour compléter ce qu'a dit Cyril, c'est que je pense qu'on trouve qu'il y a eu aussi une surestimation justement de l'intérêt de cet outil. Il y a quelque chose qu'on peut pas nier, c'est pour justement transmettre de l'information. Typiquement en interne, on a besoin de, je sais pas, il y a une date de réunion qui a été décidée ou il y a, je sais pas, quelque chose qu'il faut traiter qui est arrivé. Bon bah c'est plus facile d'avoir une liste de diffusion d'informations. On envoie un message, tout le monde la reçoit, ça évite de passer 25 coups de téléphone ou d'envoyer 25 lettres à 25 personnes différentes, quoi. Ça, c'est sûr. Et pareil, pour diffuser de l'information, si tant est que l'association, le collectif est déjà connu et que des gens savent accéder à leur site ou à leur liste ou que sais-je encore, oui, diffuser de l'information sur Internet, c'est diffuser des événements, c'est intéressant, quoi. Mais après, ça reste qu'un outil de communication et notamment, on a essayé d'avoir des usages d'Internet qui se révèlent super compliqués à l'usage. Typiquement, c'est les débats sur forum ou par mail interposé. Ça marche pas. Et les prises de décision, que ce soit encore sur forum ou sur liste de discussion, c'est pareil. Bah, finalement, bah, on se prend le chou plutôt qu'autre chose et finalement, il n'y a rien de tel qu'une réunion physique.
On perd beaucoup de temps aussi. Des fois, un coup de fil va améliorer les choses pour certains trucs. Hein.
Oui, mais Rimso, on va être obligé de renvoyer bientôt les auditeurs à la réunion publique que vous faites le 16 novembre au Café de la Commune, 3-5 rue d'Aligre. Mais peut-être que pour terminer, on pourrait dire qu'il y a des matières premières pour enfin, que le monde informatique ne vient pas de nulle part. C'est pas la pure virtualité.
Oui, monde rêvé du numérique. Fantasmé, il y a des nuisances bien réelles, ça on va pas le rappeler totalement, mais il y a plein de choses sur la consommation énergétique qui est très très forte, notamment liée de A à Z, de l'extraction de matières premières, du besoin de métaux et d'eau, jusqu'à l'impossible recyclage des machines. Il y a une machinerie avec une division sociale internationale du travail. Et donc il y a des gens qui perdent, les mineurs, les gens qui travaillent dans l'industrie, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques aussi pour faire les composants, les puces. Donc que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, ou aux États-Unis, dans la Silicon Valley, les gens sont malades. Et pour dire qu'un des gros problèmes qu'ils ont actuellement, c'est le stockage de données, et notamment les questions des data centers. Et pour parler de ça, on peut venir nous voir à la rencontre débat autour d'Offensive numéro 31, la contre-révolution informatique, mercredi 16 novembre à partir de 19h30. Pour un dîner et vers 20h pour un débat au café associatif La Commune, 3 rue de la Ligue dans le 12e, près des métros Le Dru-Rollin ou Gare de Lyon. Et la revue est disponible en kiosque.
Jusqu'au début décembre. Merci beaucoup.